les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.
Alors, bienvenue dans les portes de la connaissance. Alors, un petit problème technique, je m'excuse auprès des auditeurs, auprès de notre intervenant, François Forget. Ça n'arrive que très rarement, malheureusement, les problèmes techniques, ça arrive. On a un problème de micro, donc voilà, on est en direct. Bienvenue aux auditeurs et à François Forget sur les ondes d'O2 Radio pour l'émission Les Portes de la Connaissance. Alors aujourd'hui, on va faire une émission très particulière, très spéciale, parce qu'on accueille quelqu'un qui est astrophysicien, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est membre éminent en même temps de l'Académie des sciences, et il est spécialisé dans l'exploration du système solaire. Alors, c'est pas tous les jours qu'on accueille François Forget à la radio. On est très honoré de l'accueillir aujourd'hui, et on va faire une émission ensemble, et on va faire un grand voyage dans l'exploration du système solaire. Alors François Forget, bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours, parce que c'est très étonnant, je veux dire, d'avoir affaire à quelqu'un qui... Alors, le système solaire est très connu, bien sûr. Je dirais que c'est une chose, c'est quelque chose qui est extrêmement connu dans l'astronomie, beaucoup plus connu que certaines autres choses comme les trous noirs ou les étoiles à neutrons ou autre chose, qui sont quand même moins connues du grand public. Mais je dirais que ça reste quand même un grand mystère, parce que le système solaire, on a découvert des choses récemment dessus. On fait des explorations avec des robots sur la planète Mars. On fait des explorations avec des sondes comme Voyager, par exemple, dans le système solaire pour explorer les planètes. Mais comment est-ce que ça vous est venu, cette idée de vous spécialiser, je dirais, dans la recherche de l'exploration du système solaire? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vers ça plutôt que vers autre chose?
Alors, moi j'avoue que je ne suis pas à la base un de ces astrophysiciens qui avaient un télescope quand ils étaient petits et qui rêvaient d'être astrophysiciens. Moi je pensais que c'était vraiment un métier inaccessible d'ailleurs. Mais donc moi j'étais plutôt, je rêvais quand même de choses. J'avais plutôt comme rêve d'être un peu, vous voyez, genre commandant Cousteau ou je sais pas quoi. Alors j'ai fait plein de choses comme ça. Et par contre... bien sûr, j'ai fait des études de maths et de physique, ce qui est quand même utile pour faire ce métier. Mais je suis devenu ingénieur au départ. D'ailleurs, j'ai fait un petit peu ingénieur dans l'offshore, donc dans la recherche pétrolière. C'est plus trop la mode, mais. Et puis à un moment donné, suite à un certain concours de circonstances, j'ai été recruté par le CNES, donc l'agence spatiale française, et qui m'a envoyé aux États-Unis travailler pour préparer un projet qu'ils avaient avec des Russes à l'époque. On est dans les années 90. Et je me suis retrouvé à la NASA, tout simplement, et là, j'ai fréquenté des chercheurs, et là, je me suis rendu compte que, encore mieux qu'ingénieur, il y avait le métier de chercheur qui m'allait parfaitement pour moi, beaucoup de liberté, et puis on pouvait mener des enquêtes comme ça. Et donc, je suis rentré en France, et pour devenir chercheur, il faut faire un doctorat. Et donc, j'ai fait une thèse de doctorat sur déjà la planète Mars. Et attention, hein, je suis pas le seul, on est nombreux en France. Les chercheurs en planétologie en France sont... La planétologie française est bien reconnue et on est assez nombreux à contribuer à l'enquête et les études sur le système solaire.
D'accord. Et alors, la recherche dans le système solaire, vous avez fait une thèse sur la planète Mars. Donc, qu'est-ce que vous avez abordé dans votre thèse? Parce que on sait que sur la planète Mars, il y aurait eu éventuellement peut-être de l'eau. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette planète exactement? Parce que la planète Mars est une planète, je dirais, qui est quand même relativement mystérieuse. À l'époque, un astronome avait découvert, en observant des canaux, c'est assez très, très curieux d'ailleurs, et avait publié des travaux en disant que sur la planète Mars était habité. D'ailleurs, c'était très, très, très curieux. Mais qu'est-ce qu'on peut dire exactement sur cette planète? Parce que c'est une planète qui regorge de mystères. Beaucoup de choses ont été dites sur cette planète, la planète Mars. On dit que de la vie pourrait éventuellement avoir existé à sa surface. D'autres disent que non, d'autres font des recherches dessus, on envoie des robots comme Trinity ou comme Perseverance par exemple, et on fait des recherches et on recherche de savoir si on trouve éventuellement des traces de vie. Qu'est-ce qu'on cherche exactement sur cette planète? Est-ce qu'on cherche plus l'élément, je dirais, bactérien, bactériologique, l'élément qui pourrait montrer qu'on a des traces de vie, ou est-ce qu'on cherche plutôt des traces d'eau? On est dans quelle direction exactement?
Ben, on fait plein de choses en même temps. Alors, on n'est plus du tout à l'époque des canaux sur Mars et de l'observation lointaine au télescope en faisant des dessins. Hein. Ça, c'était il y a très longtemps. Pendant longtemps, quand même, on s'est trompé un peu sur la nature de la planète Mars. Maintenant, depuis les années 70, avec les premières sondes spatiales, 60-70, on comprend mieux. Bah, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, la planète Mars qu'on explore aujourd'hui est quand même un monde intéressant, très actif, avec une atmosphère, un cycle de des tempêtes de poussière, des nuages de toutes sortes, des calottes polaires, etc. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, d'autant plus que de tous les astres, tous les objets du système solaire, Mars, c'est de loin celui qui ressemble le plus à la Terre, au sens où la durée du jour est de 24 heures 40 minutes, donc c'est presque comme sur Terre. Le rythme des saisons, qui est réglé par l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète sur le plan d'orbite, donc ce qu'on appelle l'obliquité, c'est presque comme sur Terre aussi. Bref, on retrouve le même genre de saisons, la même durée du jour, ce qui fait que la circulation atmosphérique ressemble beaucoup. Sauf que, bien sûr, c'est un désert, et c'est un désert plutôt sec. Donc il y a beaucoup d'eau sur Mars à l'heure actuelle, mais c'est toujours de l'eau sous forme de glace ou de vapeur. On n'a pas d'eau liquide, en tout cas à la surface. Par contre, et là vous l'avez évoqué, c'est l'autre intérêt de la planète Mars, c'est que quand on regarde dans les terrains anciens, dans la géologie ancienne, on voit des traces de rivières et de lacs qui datent d'il y a plus de 3 milliards d'années, donc un passé vraiment, ça date de la jeunesse du système solaire. Mais là, il n'y a pas de spéculation, hein, on est absolument certain qu'il y avait des lacs et des rivières, voire des mers d'eau liquide. Et c'est d'autant plus intéressant qu'à cette époque-là, la vie est apparue sur Terre. Donc on se demande si la vie est apparue sur Mars. Et on mène l'enquête, mais de manière très rationnelle, très scientifique. Il n'y a pas trop de spéculation sur ce sujet. Par contre, il reste plein de mystères, d'énigmes qu'on doit résoudre. Mais on le fait. Et donc, quand je disais que la planète Mars était étudiée aujourd'hui, faut savoir que là, au moment où je parle, vous avez 8 satellites en fonctionnement autour de Mars qui l'étudie, qui la cartographie, qui la scrute sous toutes les coutures. Et vous avez 4 engins à la surface en fonctionnement aussi. Donc c'est quand même un monde qui est bien exploré.
D'accord. Et parce que beaucoup de choses sont dites. On dit que... alors il y a plusieurs théories qui parlent de la fin, je dirais, de la possibilité qu'il y ait eu de la vie et de l'eau sur Mars. On dit que une météorite telle un Armageddon comparable ou peut-être plus puissant que celui qui a exterminé les dinosaures aurait soufflé, je dirais, la couche atmosphérique de Mars. Et d'autres disent que c'est le champ magnétique qui n'existe pratiquement plus ou n'existe plus sur Mars qui aurait fait que l'effet dynamo, je dirais, au centre de Mars se serait arrêté et qu'on n'aurait plus de champ magnétique et que donc les vents solaires auraient fini par souffler l'atmosphère, donc la pression aurait chuté et que l'eau se serait volatilisée. Alors, on est que sur la théorie la plus qui a été retenue, c'est laquelle?
Ça, c'est une bonne question. Donc, en fait, votre question, c'est pourquoi Mars n'a pas connu le destin de la Terre? Et c'est une bonne question, bien sûr. Pourquoi elle n'a pas conservé des lacs, des rivières et des dinosaures?
Oui, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait.
Et donc, et vous avez donné une partie de la réponse. Effectivement, c'est parce qu'elle a perdu son atmosphère, essentiellement, de dioxyde de carbone. Eh bien, on continue à se poser la question. Il y avait cette idée que, effectivement, la perte du champ magnétique avait entraîné... le fait que des mécanismes liés au vent solaire auraient pu entraîner l'atmosphère, mais franchement, on n'y croit plus beaucoup. Personnellement, en tout cas, je pense que le champ magnétique n'a pas trop de lien. On n'a pas pu démontrer le lien entre un échappement particulier de l'atmosphère dans l'espace par rapport au champ magnétique. Néanmoins, la première possibilité, la théorie la première, c'est de penser que cette atmosphère qui devait être plus épaisse que sur Terre il y a quelques milliards d'années, c'est quand même échappé dans l'espace. Comment ? Il y a des sondes spatiales qui sont dédiées à cela, à essayer de le comprendre, et c'est pas évident parce que, par exemple, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, et on comprend très bien pourquoi. Le simple mouvement thermique, l'agitation des molécules de l'air, qui, s'il y avait de l'air autour de la Lune, suffira à les éjecter dans l'espace. Donc elle n'a pas assez de gravité pour conserver. Sur Terre, c'est l'inverse. Là, rien ne bouge, à part peut-être l'hydrogène, mais donc la plupart des molécules qui constituent l'atmosphère, l'air, restent coincées sur Terre et ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas partir dans l'espace. Et sur Mars, le mouvement thermique suffit pas du tout. Par contre, on connaît quelques mécanismes liés par exemple à la photochimie, hein, je vais pas vous noyer de détails scientifiques, mais certains mécanismes assez subtils et compliqués font qu'on peut quand même peu à peu perdre l'oxygène, le carbone, et l'hydrogène bien sûr, dans l'espace. Mais quelle quantité, c'est pas évident. On étudie ce sujet-là et on trouve que c'est pas facile d'en perdre beaucoup en tout cas. Et puis l'autre point, c'est que on s'était dit longtemps à une époque que le CO2 lui-même, hein, je vous ai dit que c'était du dioxyde de carbone, aurait pu faire comme sur Terre, quand il y a de l'eau liquide sur Terre, le CO2 se dissout dans l'eau liquide et forme des roches calcaires, des carbonates, on appelle ça. Comme dans les falaises d'Étretat, si vous voulez. Et on s'attendait vraiment à en trouver beaucoup. Ça aurait vraiment expliqué le destin de Mars. L'atmosphère se serait dissous dans l'eau pour former des roches calcaires, chimiquement. Et comme Mars n'a pas de plaque tectonique, n'a pas de renouvellement de la surface, ces roches seraient restées coincées. Mais il y a quelques années, quand on a commencé à chercher ces roches calcaires, on n'en a presque pas trouvé. Donc c'est pour ça que la théorie dominante maintenant, c'est que l'atmosphère s'est échappée dans l'espace.
D'accord. D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup polémiqué, beaucoup de choses ont été dites, des choses bien sûr très sensées, mais il y a eu aussi un peu n'importe quoi qui avait été dit à l'époque sur justement la disparition de l'eau sur Mars. Et c'est vrai qu'on se pose tous la question de savoir exactement ce qu'il en est.
Alors de l'eau, il en reste pas mal, attention. Il y en a moins sûrement qu'autrefois, mais il reste pas mal d'eau sous forme de glace dans beaucoup de bien des endroits sur Mars.
Est-ce que on parle de neige carbonique, pourquoi ?
Parce que ça, c'est un autre aspect sur Mars. Donc l'atmosphère est constituée essentiellement de CO2, donc de dioxyde de carbone. Et il se trouve que chaque automne et hiver dans chaque hémisphère, la température devient tellement froide, elle descend à peu près jusqu'à moins 130 degrés. Et dans les conditions martiennes, l'atmosphère de CO2 se condense pour faire de la glace carbonique, donc de la glace sèche, comme ils ont dit aux États-Unis, dry ice, et qui s'accumule jusqu'à former un manteau jusqu'à 1 mètre d'épaisseur environ. Et donc c'est assez spectaculaire. Et d'autant plus que c'est des calottes saisonnières qui vont vraiment se sublimer. On ne dit pas s'évaporer, hein, parce qu'on passe directement du solide à la vapeur, au gaz, sans passer par la phase liquide. Et près du pôle sud, on a une calotte de glace carbonique permanente, pérenne, qui est une espèce de glacier de glace carbonique. Donc il y a aussi, en plus de l'eau, du cycle de l'eau qui forme des nuages, etc., il y a aussi un cycle du CO2 qui forme de la neige, de la glace et même des nuages de glace carbonique. On a tout ça sur Mars.
D'accord. Donc on a la réponse par François. Qu'est-ce qu'on peut dire, parce qu'on a fait une petite découverte de la planète, je crois qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Est-ce qu'on a découvert des traces d'eau en sous-sol ?
Alors oui, sous plusieurs sortes. Donc une découverte qui est quand même impressionnante quand on y pense, c'est qu'on a découvert qu'il y avait beaucoup d'eau aux moyennes latitudes, c'est-à-dire disons l'équivalent du nord de Paris, jusqu'au pôle. Dans chaque hémisphère. Alors, ce, juste sous la surface. En fait, à ces latitudes-là, partout sur Mars, quand on regarde la surface, on voit du sable, mais en fait, sous quelques centimètres de sable, il y a une couche de glace blanche, presque pure, sur des dizaines de mètres, ou on ne sait pas exactement, d'épaisseur. Alors, on l'a découvert avec des moyens assez astucieux, en faisant de la physique nucléaire, je ne vais pas vous détailler. Mais donc, il y a vraiment des grandes quantités de glace juste sous la surface, pour des raisons que je pourrais vous raconter si vous voulez. Et donc, en fait, si on pouvait enlever le sable sur quelques centimètres, on aurait une planète Mars qui serait vraiment avec toute couverte de glace dans les deux hémisphères, entre le pôle et la latitude de Paris, quoi. Et par contre, on se pose aussi la question de savoir s'il y a de la glace plus profonde. Probablement, il y en a. Il y a de bonnes raisons qu'il y en ait. Et la grande question qu'on se pose dans ce contexte-là, c'est que, bien sûr, si on va suffisamment profond, sur Mars comme sur Terre, la température augmente hein, quand on va vers le centre de la planète. Et donc, à quelques kilomètres de profondeur, quand même très profond, eh bien, la température moyenne dépasse 0 degré. Et s'il y a de la glace, elle va fondre et faire des nappes d'eau liquide, des nappes aquifères. Et sur Terre, on a l'équivalent. Et sur Terre, quand on trouve ces nappes aquifères à quelques milliers de mètres de profondeur sous la surface, il y a des bactéries, plein de bactéries actives. C'est même assez fascinant. Et donc, on se pose la question de savoir s'il y en a sur Mars. Alors, on a conçu un radar spécial de sondage souterrain qui était en particulier sur la mission Mars Express, donc une mission européenne qu'on a lancée en 2003. Et on n'a pas trouvé grand-chose. On a juste trouvé... Peut-être que sous une des calottes polaires, la calotte polaire sud, il y aurait des petites nappes d'eau liquide très salées, certainement. Et on mène l'enquête là-dessus, on n'en est pas sûr encore. Voilà.
Merci François, merci beaucoup. Alors on va faire une petite pause musicale, très courte, je dirais, parce qu'on a perdu beaucoup de temps à cause du problème technique et on s'en excuse encore auprès de nos auditeurs. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, de retour en direct dans les portes de la connaissance, avec ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour l'émission spéciale que nous avons pour cet été, puisque c'est une émission spéciale, puisque normalement, cette année de l'été, on ne fait pas d'émission. C'est François Forget, qui est astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, qui nous a rejoint. Et nous sommes en direct avec vous, chers auditeurs. Et aujourd'hui, on fait l'exploration de notre système solaire et on parlait tout justement, bien avant, de la planète Mars. Alors, on va faire un petit voyage et on va avancer dans notre voyage et on va aller voir un petit peu ailleurs parce que les planètes du système solaire, c'est pas une inconnue pour beaucoup de gens parce qu'on en parle beaucoup. On parle évidemment de toutes les planètes, Mars, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Jupiter. Donc, beaucoup de gens connaissent les planètes du système solaire. Mais après, ce qui est plus intéressant dans notre recherche, c'est d'aller chercher les planètes où il y aurait éventuellement des traces d'eau ou de la vie éventuelle. Alors, on ne peut pas forcément parler de vie comme certains l'imagineraient avec des petits êtres ou autre chose, ou de la vie végétale ou animale. Mais on pourrait très bien imaginer qu'on ait de la vie sous forme de bactéries sur des planètes comme Europe, Titan ou Galimède éventuellement. Et on va en parler avec François. On va voir quelles sont les avancées qu'on a fait pour ces planètes qui sont des satellites de plus grosses planètes. Alors, où on en est à ce niveau-là?
Alors, ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que ces mondes qu'on appelle maintenant les mondes océans sont devenus des objectifs importants dans l'enquête que l'on mène. Alors, c'est très motivant parce que c'est pas tellement... Enfin, bien sûr, on recherche la vie pour la vie, mais l'enjeu est énorme parce que parmi les immenses questions que l'on se pose, c'est de savoir si... quand il y a de l'eau liquide, la vie démarre. Alors pourquoi on dit eau liquide? C'est parce que quand on s'intéresse à qu'est-ce qui est nécessaire pour la vie telle qu'on la connaît, tout de suite on voit que c'est de la chimie avec du carbone dans l'eau liquide. Et sur Terre, c'est fascinant. Quand il y a de l'eau liquide, il y a de la vie active qui se reproduit, quelle que soit la température, la salinité, ça marche toujours. Et dès qu'il n'y a pas d'eau liquide, tout s'arrête. Donc il y a vraiment une égalité, vraiment un lien direct, eau liquide, vie. Alors on pourrait se dire, c'est l'expérience sur Terre, peut-être qu'ailleurs il pourrait y avoir autre chose. Mais en réalité, on a du mal à imaginer une chimie aussi riche que ce que l'on arrive à faire dans l'eau liquide avec les molécules avec du carbone. Donc voilà, on est un peu dans cette idée, c'est l'eau liquide qu'il faut. Alors maintenant on se dit, s'il y a de l'eau liquide, la vie est apparue sur Terre, est-ce qu'ailleurs c'est le cas? Alors on a parlé de Mars, qui est vraiment un sujet d'enquête passionnant, parce qu'on peut aller explorer le fond d'anciens lacs, et aller voir dans les sédiments si on trouve des traces de quelque chose qui se serait passé en lien avec la vie. Mais effectivement, il y a encore mieux, il y a l'eau liquide qu'on peut trouver sur d'autres mondes, sous la glace, donc le plus souvent c'est les lunes glacées des planètes géantes, comme a priori Jupiter, Saturne, pourquoi pas ailleurs, même jusqu'à Pluton, et on sait qu'il y a une couche d'eau liquide à l'intérieur de Pluton, très probablement. Maintenant, c'est quand même particulier parce que c'est de l'eau qui est dans les ténèbres en permanence, il n'y a pas du tout de lumière, donc c'est pas comme sur Terre, la lumière a joué sûrement un rôle dans l'évolution de la vie. Et puis, évidemment, cette eau est très difficile d'accès, elle est sous beaucoup de glace, etc. Alors les deux lunes les plus intéressantes à étudier, c'est d'une part Europe, effectivement, autour de Jupiter. Si vous voyez une photo d'Europe, on voit tout de suite que c'est une croûte glacée, et sous quelques kilomètres de glace, il y a très probablement un océan lui-même en interaction avec une surface rocheuse en dessous, avec des volcans peut-être. Donc c'est très inspirant, on se dit là il y a une chimie riche, il doit se passer des choses. Et c'est donc, pour l'instant, on s'est vraiment attaché à démontrer qu'il y avait vraiment de l'eau liquide là-dessous. On a essayé de regarder un petit peu quelle était la nature. Alors on ne peut pas accéder à l'eau qui est sous la glace, en tout cas ça va être très compliqué. Par contre il y a des fissures et des fois il y a de l'eau qui sort. Et on peut regarder, pour faire simple, si on voit des crevettes mortes quoi, dans l'eau qui est sortie. Bon, on n'a pas trouvé encore, mais on mène l'enquête. Alors là, les prochaines missions pour aller étudier Europe en particulier, c'est une mission européenne qui s'appelle JUICE, qui va plutôt d'ailleurs étudier Ganymède, une autre lune de Jupiter, mais qui va quand même regarder un petit peu Europe. Et puis surtout, une énorme mission de la NASA qui s'appelle Europa Clipper, c'est son nom, et qui va vraiment, toujours en restant en orbite, sans se poser sur Europe, va vraiment étudier en détail ces failles, comment est l'océan, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et puis l'autre monde très intéressant, c'est très étonnant, c'est une petite lune de Saturne. Saturne a plein de lunes, comme Titan notamment, qu'on a cité. Il y en a une qui s'appelle Encelade, qui est petite, elle fait 500 km, donc on pourrait la poser sur la Bretagne quasiment. Et on a découvert au pôle sud de cette petite lune une zone où il y avait des espèces de geysers. Et en fait, on a fini par comprendre que cette lune, c'était un peu comme Europe, une couche de glace, très froide bien sûr, en contact avec l'espace, mais sous la glace, sous quelques kilomètres, voire peut-être quelques mètres seulement au niveau du pôle sud de glace, un océan d'eau liquide. Et donc là, il y avait, avec ces geysers, on peut imaginer essayer de récupérer des échantillons de ce qui sort de geysers, ce qui sort de l'océan, et regarder là encore si on trouve des bactéries, en tout cas des molécules étonnantes. Donc ça, c'est un objectif qui est depuis peu un objectif officiel de la NASA. Il y a tout un ensemble d'études qui a été fait pour définir ce qui allait être planifié dans les 10 années à venir. Et parmi les priorités, il y avait l'idée d'aller regarder en détail qu'est-ce qui sort de ces failles, de ces geysers sur Encelade.
Mmh. Quels sont les composants qui favorisent l'élaboration de la vie? Parce que on parle de l'eau, on parle de l'oxygène, on parle de l'élément humidité, je dirais, et des rayonnements cosmiques qui favorisent effectivement l'agencement de molécules. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments, en fait, qui pourraient favoriser la vie d'une autre manière? Parce qu'on a des certitudes qui sont celles d'aujourd'hui en disant, si on a de l'eau, si on a de l'oxygène, si on a de la vapeur d'eau, si on a effectivement un bombardement cosmique des molécules, on a forcément de la vie. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres éléments qui, sous, je dirais, sans eau éventuellement, ou à des températures très basses, on pourrait favoriser quand même la vie? Est-ce qu'il n'y aurait pas justement une alchimie qu'on ne connaît que très mal, qui pourrait favoriser la vie sous d'autres conditions?
Oui, alors, on n'a aucune certitude. En particulier, le passage du non-vivant au vivant est totalement inconnu. Il faut dire que sur Terre, on n'a aucune trace de cette évolution-là. Les êtres vivants, la biologie, les êtres vivants les plus simples qu'on puisse connaître sont déjà ultra compliqués. On n'a plus du tout accès aux étapes intermédiaires entre le non-vivant et le vivant. C'est d'ailleurs un des intérêts d'aller explorer ailleurs, voir si on trouve des étapes intermédiaires. Néanmoins, on n'a aucune certitude. Ce qu'on sait, donc, c'est qu'on a du, ce que je disais à l'instant, on a du mal à imaginer quelque chose qui fonctionne, qui soit aussi riche que des molécules plutôt à base de carbone. Alors c'est sûr qu'il faut d'autres nutriments, on va dire, d'autres éléments, comme effectivement l'oxygène, évidemment, enfin l'hydrogène, bien sûr, mais l'oxygène, mais aussi le phosphore, le soufre, toutes ces choses-là interviennent dans la vie telle qu'on la connaît. Néanmoins, vous avez raison de poser la question. Est-ce que c'est pas trop chauvin, entre guillemets, de considérer que pour qu'il y ait de la vie, il faut que ce soit comme sur Terre? Donc, une première possibilité, ce serait qu'on ait bien une vie à base de carbone. C'est ça, quand même. La chimie du carbone est assez exceptionnelle parce que c'est elle qui fait tous les polymères, toutes les molécules organiques. C'est unique. Vraiment, en gros, pour faire simple, 99% des molécules que l'on connaît, donc j'exagérais en disant qu'ils existent, mais que l'on connaît, on en a quand même... Bon, les chimistes explorent beaucoup de sortes de molécules. Ce sont des molécules à base de carbone, comme ce qui sert pour la base du vivant. Donc, une chimie du carbone, mais alors effectivement sans eau liquide. Alors, à ce moment-là, il faut quand même un solvant, parce que si tout est sec, rien ne bouge, donc il ne se passe rien, donc il faut un autre solvant, un autre liquide. Alors, il y a pas mal de... C'est un sujet de recherche assez actif. Tous les ans, il y a des colloques sur ce sujet. Et en particulier, on s'interroge, je pense que c'est ça que vous aviez derrière la tête, sur qu'est-ce qui pourrait se passer dans les lacs que l'on trouve sur Titan, donc une lune de Saturne, et sur lequel il y a des lacs non pas d'eau, mais de méthane liquide, avec peut-être un peu d'éthane liquide. Donc c'est des molécules, c'est du méthane, CH4, c'est une espèce d'essence, quoi. Et donc là-dedans, il y a plein de molécules organiques de toutes sortes, et puis on essaye de voir si ça pourrait faire quand même être propice à la création d'espèces de bactéries très étranges, etc. Alors c'est difficile quand même. D'abord parce qu'il fait très froid, et donc toutes les réactions chimiques sont très très lentes. Pour qu'on ait du méthane liquide, il faut qu'il fasse froid. Et puis d'autre part, l'eau a des propriétés par rapport aux molécules carbonées qui sont très avantageuses. C'est un très bon solvant, mais en même temps, il y a les molécules sont soit hydrophiles, hydrophobes, et ça aide à plein de choses dans la chimie qu'on ne retrouverait pas quand on se met dans la chimie du méthane. Mais néanmoins, c'est un suivi de recherche. Puis le dernier point, vous allez me dire, bah, c'est encore un peu chauvin de dire qu'il faut absolument du carbone. Et en particulier, on peut quand même imaginer, dans la science-fiction, on trouve souvent de vie à base de silicium. Et c'est vrai que, par exemple, on connaît tous le silicone, il y a toutes sortes de silicones, ça fait quand même quelque chose qui ressemble un peu à des... à quelque chose de mou, un peu vivant, et effectivement avec la silice, S-I, qui est dans le, si vous, pour ceux qui ont été à l'école, enfin au lycée, on se souvient dans le tableau des éléments de Mendeleïev, la silice est juste en dessous du carbone, ça veut dire qu'elle peut à peu près faire les mêmes liaisons. Alors elle peut, mais c'est quand même beaucoup moins riche. Néanmoins, c'est pareil, c'est un peu un sujet de recherche, voir si on arrive à faire une chimie compliquée qui pourrait être à l'origine du vivant avec de la silice.
D'accord. On fait un beau voyage. Alors, je vous rappelle qu'on est en direct avec François Forget, aujourd'hui directeur de recherche au CNRS, et qu'on fait l'exploration du système solaire, dont justement à la recherche du vivant sur les planètes que l'on connaît bien, Mars, et les planètes moins connues du grand public, qui sont des satellites de Saturne et de Jupiter, qui sont des petites planètes qui pourraient éventuellement abriter des traces de vie. Voilà. Donc, François, juste après ce petit voyage, quels sont les moyens qu'on utilise pour rechercher la vie sur ces planètes, justement? Parce que, on imagine, évidemment, qu'on peut trouver des traces de vie, mais quels sont les moyens? Parce que sur Mars, on envoie des robots, d'accord? Sur ces planètes, on envoie quoi, exactement, pour découvrir la vie?
Pour l'instant, c'est ce que je vous disais, on essaie de ramasser... Alors, des échantillons, puis d'étudier à distance en faisant des méthodes d'astrophysique, la spectroscopie, des choses comme ça. Ou sinon, on peut ramasser des choses dans l'espace, quand ça jaillit, comme ça, d'un geyser, et l'étudier avec différents instruments qu'on peut mettre à bord des robots. Ouais.
Parce que sur Europe, on n'a rien envoyé.
On a quand même... elle a été étudiée à distance par plusieurs sondes, en particulier la sonde Galileo, qui est dans les années 90, qui l'a quand même bien étudié, avec des survols à basse distance, avec différents instruments, mais on n'a rien envoyé à la surface. Il est prévu d'envoyer un atterrisseur à la surface d'Europe, mais pour l'instant, ce projet-là est un peu figé, un petit peu bloqué. Il y a une charge utile, c'est-à-dire des instruments scientifiques ont été sélectionnés, avec des équipes scientifiques et tout, hein. Mais pour l'instant, il n'est pas encore lancé, pas financé, donc je ne sais pas s'il arrivera un jour, ce projet-là. Mais la première étape, c'est vraiment de l'étudier depuis à distance, enfin juste en orbite, à quelques milliers de quelques centaines de kilomètres, disons, et de regarder vraiment avec toutes les méthodes modernes de télédétection, c'est-à-dire de mesure à distance de la chimie, ce que l'on peut faire très bien avec la spectroscopie, avec les spectres, pour regarder ce qu'on voit, quoi. Voilà. Mais un jour, certainement, on enverra quelque chose sur Europe. Le rêve, bien sûr, tout le monde serait d'envoyer un sous-marin à l'intérieur, sous la glace. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait croire. La glace est extrêmement froide, extrêmement dure, et c'est sur des milliers de mètres d'épaisseur. Faire un forage pour descendre quelque chose dans l'océan, c'est presque impossible avec nos connaissances actuelles. Ce qui est beaucoup plus facile, encore une fois, c'est d'aller explorer, d'aller regarder ce qu'il y a dans l'eau qui jaillit de temps en temps par les fissures de la glace, et voir si on trouve des indices sur ce qui se passe en dessous.
D'accord. Oui, effectivement, c'est vrai que percer la couche de glace de plusieurs kilomètres avec une foreuse dont on ne sait pas si on pourrait en envoyer une, parce qu'il faut assembler des éléments bout à bout pour forer beaucoup plus loin, ce serait assez difficile, effectivement. Mais quels sont les projets de la NASA, quels sont les projets de l'Agence spatiale européenne dans ce domaine futur pour découvrir si on a de la vie sur ces planètes, justement? Est-ce qu'il y a des futures missions qui sont prévues?
Je ne vais pas me répéter, c'est pour faire simple encore une fois, donc vraiment pour découvrir de la vie, moi je vais bien insister sur une mission qui n'est pas encore complètement sélectionnée, mais auquel on commence à penser très sérieusement et je crois arrivera. C'est ce qu'on appelle bizarrement un Orbilander. Ce sera un engin qu'on va envoyer autour de Saturne pour s'approcher de Encelade, donc de ces petits mondes, et qui va se poser à côté de la surface, à côté des failles d'où l'eau jaillit, pour vraiment étudier et récupérer des échantillons qui sortent de là. Et il y a quelques semaines seulement, une étude spéciale, dans le jargon on appelle la Decadal Survey, c'est-à-dire c'est une grande commission de chercheurs qui doit décider ce que va faire la NASA dans les 10 ans à venir, a mis cette mission-là en deuxième priorité. Alors pas en première priorité, en première priorité c'était une mission vers Uranus qui a été sélectionnée.
D'accord. François, merci beaucoup, mais avant de se quitter, je vais vous poser une question, parce que tout le monde ne sait pas ce que je vais poser comme question, tout le monde ne connaît pas la réponse. C'est pour ça que je demande à François, pourquoi les planètes du système solaire sont-elles gazeuses à l'extérieur, vers l'extérieur du système solaire, et telluriques vers le centre ? Pourquoi faire une petite synthèse en quelques minutes d'expliquer la formation du système solaire, pourquoi ça s'est fait de cette manière-là?
Alors, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question d'autant plus que maintenant que l'on observe les autres systèmes planétaires autour des autres étoiles, de mieux en mieux, eh ben, on découvre que ce n'est pas le cas partout du tout. Et pourtant, ça aurait du sens. Alors je vais d'abord vous dire pourquoi on a longtemps cru que ça avait du sens dans le système solaire. La théorie, c'est que pour former des planètes, en gros, on a un nuage de poussière et de gaz qui s'effondre. L'essentiel de toute cette matière s'effondre, c'est-à-dire là, à un moment donné, on commence à former un gros grumeau au milieu qui attire le reste gravitationnellement. Et au bout d'un moment, hop, 99% de la matière qui était dans le nuage va se mettre au milieu. Ça fait le Soleil, donc beaucoup d'hydrogène, d'hélium, etc. Et puis, il reste un peu de matière autour qui va se tourner autour de ce jeune Soleil et former comme ça un disque de matière. Et alors là, si on est proche du Soleil qui commence à être chaud, là, l'eau est sous forme de vapeur et donc elle n'est pas disponible pour former les planètes. Et les planètes vont se former à partir de ce qui est réfractaire, c'est-à-dire du caillou, quoi. Et ça fait la Terre, Mercure, Vénus, les petites planètes. Au-delà d'une certaine distance, qu'on appelle la limite des glaces, eh bien, l'eau, il va faire plus froid parce qu'on est plus loin du Soleil. Et là, l'eau est sous forme de glace. Et donc, ça fait une matière solide. Et là, on va pouvoir faire des planètes constituées avec un peu de cailloux et beaucoup de glace. Et très rapidement, on peut arriver à faire, par exemple, va s'agréger une planète, un grumeau, mais qui va grandir et qui va pouvoir faire 10 fois la masse de la Terre. Et une fois qu'on atteint 10 fois la masse de la Terre, l'hydrogène que l'on croise en tournant autour du jeune Soleil va rester retenu gravitationnellement et donc former une énorme boule de gaz avec, 10 fois la masse de la Terre en termes de glace et de cailloux, mais surtout des centaines et des centaines de fois la masse de la Terre en hydrogène et hélium, qui sont normalement des gaz. Et donc ça fait des planètes géantes, des planètes gazeuses. Voilà le principe de base. Alors, pourquoi est-ce que dans le système solaire c'est comme ça, mais par contre on trouve d'autres exemples très différents ailleurs, c'est qu'au milieu de toute cette aventure se déroule un autre phénomène qui fait que les grosses planètes, quand elles se forment, elles ont tendance à migrer, à se déplacer. Et en gros, la plupart du temps, elles ont tendance à s'approcher de leur Soleil. Et ce qui fait que très souvent, on trouve par exemple des planètes géantes qui sont en fait très proches de leur étoile, ce qu'on ne voit pas du tout dans le système. Elles se sont formées loin, là où il y avait de la glace, puis elles ont migré vers l'intérieur. On trouve aussi souvent des systèmes, c'est même le plus courant, où il n'y a pas de planètes géantes. Il n'y a que des espèces de planètes qui sont des espèces à la fois des super-terres qui vont faire quelques fois la masse de la Terre et qui sont en même temps des mini-Neptunes, des mini-Uranus. Neptune fait typiquement 17 fois la masse de la Terre. Donc on trouve quelque chose d'intermédiaire qu'on ne connaît pas dans le système solaire et qui est l'objet de plein de recherches. Donc en tout cas, c'est une très bonne question et la réponse est plus compliquée qu'on ne pensait il y a encore 20 ans.
D'accord. Et qui s'est formé? Parce que c'est des questions qui sont simples, mais les auditeurs ne sont pas tous à des gens qui connaissent l'astronomie, mais des gens qui s'y intéressent. Le Soleil s'est formé en premier, je suppose, évidemment. Mais après, ces planètes qui se sont formées après le Soleil. Alors, qu'on explique aux auditeurs, parce que les gens n'ont pas forcément les connaissances d'astronomie et n'ont pas ce savoir que vous avez ou que certaines personnes ont, de savoir qui s'est formé en premier. Le Soleil d'abord et ensuite les planètes telluriques et ensuite les planètes gazeuses, ou il y a eu un autre procédé?
La première réponse, vraiment au premier ordre, c'est que tout s'est formé un peu en même temps, hein, sincèrement. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu un effondrement de ce nuage de gaz, hein, qui fait que on a eu un soleil qui s'est formé, puis qui s'est allumé, entre guillemets, mais il était encore en train de se former, que déjà les planètes se formaient. Alors par contre, on peut quasiment montrer que ce qui s'est formé en premier, c'est plutôt Jupiter, donc les planètes géantes. Et c'est pour vraiment finaliser la création de la Terre, de Mars et Vénus et tout ça, il a fallu pas mal d'étapes intermédiaires, et on pense que tout ça s'est déroulé quand même après les planètes géantes. Les planètes géantes, ça va très vite. Mais bon, moi je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est que tout ça a démarré il y a environ 4,567 milliards d'années. En gros, on date ça de manière très précise grâce à une science absolument magique qui s'appelle la géochimie ésotopique, je ne vais pas vous détailler. Et quasiment tout s'est fait en quelques millions d'années. Hein. Donc à l'échelle, donc le système solaire a plus de 4500 millions d'années, et en quelques millions d'années, on a tout formé. Hein. Donc c'est vraiment, il faut plutôt retenir que tout est à peu près simultané. C'est plutôt, bien sûr, sinon, si vous voulez un ordre quand même rapide au moment où ça s'est fait, c'est d'abord le Soleil, puis les planètes géantes, puis les planètes telluriques.
D'accord. François, merci infiniment pour avoir accepté cette invitation magnifique, d'avoir pu témoigner de vos grandes connaissances dans le domaine de l'exploration du système solaire. Merci infiniment à vous. Merci aux auditeurs, évidemment, d'avoir écouté cette émission. Et puis, peut-être à une prochaine fois, pour un autre domaine, dans le domaine de la recherche de la vie dans le système solaire ou de l'exploration du système solaire avec François Forget, éventuellement. Merci infiniment et à bientôt pour une prochaine émission dans les portes de la connaissance. Alors, dans les portes de la connaissance, normalement cet été les émissions sont terminées. On en fera encore au mois d'août, après le 15 août. On en fera quelques-unes, mais jusqu'au 15 août les émissions sont terminées. Donc, bonnes vacances à tous et puis à bientôt sur les ondes d'eau de radio pour les portes de la connaissance après le 15 août. Merci à tous. Au revoir.
Au revoir.
Les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.